Midi
Blabla Mix. Blabla Mix.
Blabla Mix.
Blabla Mix.
Yeah, my neighbor, your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? In times like this.
Right. C'est Blabla Mix.
C'est Blabla Mix.
Salut à toi et merci d'être là. Blabla Mix, c'est des gens qui font de la radio avant de pouvoir vivre leur vie dans Blabla Invité. Aujourd'hui,
Naël, Blabla Invité, parce que ça a été Nathalie Perrin-Gilbert. Soit qui est mon conseiller d'Agbata, tu causes de d'Agbata dans Kondroti, Franzi, dans Baguette Lyon.
Dans Blabla Minute, Rita,
c'est Rina Tchela Gras qui va nous parler de l'Alpanie.
Et blabla accroche avec toi Dipu.
Blabla accroche à ce que ami et bon an apprennent de l'autre côté et cette scène.
Mais tout de suite un peu de vocabulaire municipal.
Oui, oh, oh, oh. Blabla words.
Démocratie.
Nengondiatizo.
Gonotontro.
Maire.
Mokon City d'Agbata.
City Corporation.
Maire.
Quartier.
Vaka.
Elaka.
Quartier.
Habitante.
Azotikodron.
Jonogon.
Habitante.
Merde de chien.
Pourou Timbo.
Koutargo.
Merde de chien ou d'éjection canine.
Vie nocturne.
Gigi Tibi.
Raté Dhaka.
Vie nocturne.
Environnement.
Yeso Angorozo.
Poribesh.
Environnement.
Arbre.
Keke.
Gachpala.
Arbre.
Ce vocabulaire municipal vous était proposé par Peggy en Sango, Dipu en Bengali et Nathalie Perrin-Gilbert en municipal, justement.
Bla bla bla, habité.
Bonjour Nathalie Perrin-Gilbert.
Bonjour.
Vous êtes mairesse du premier arrondissement depuis 2001. Est-ce que vous pouvez présenter l'arrondissement à ces nouveaux venus que sont Dipu, Peggy, Rita, Dan, Shumon?
Alors d'abord, je leur présente l'arrondissement en leur disant bienvenue et que je suis heureuse d'être assise à leur côté ce matin, chez Radio Canu. Le premier arrondissement, c'est le plus petit arrondissement de Lyon, mais c'est aussi le plus densément peuplé. C'est un arrondissement, un des arrondissements les plus denses d'Europe. C'est l'arrondissement des Canus, ces ouvriers de la soie, dont la révolte, les révoltes au XIXe siècle, ont beaucoup compté dans notre histoire sociale, dans notre histoire ouvrière également. Aujourd'hui, c'est un arrondissement où vivent de nombreux artistes, où sont présents de nombreux lieux de culture, des lieux de création, des lieux de diffusion aussi. C'est un arrondissement qui se transforme, alors il y a des bonnes choses dans cette transformation. Notamment, on a lutté contre l'insalubrité du logement. On avait des problématiques avec le logement ancien, du plomb dans la peinture, avec des maladies, du plomb dans le sang, du coup, ça s'appelle le saturnisme. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations de l'habitat, mais ces opérations d'amélioration de l'habitat ont amené une augmentation des prix au mètre carré, une augmentation des loyers, et puis petit à petit, une population qui, on dit, se gentrifie sur l'arrondissement, c'est-à-dire, nous perdons des classes moyennes, des classes populaires. Et je suis assez soucieuse de cette évolution et nous essayons de garder des équilibres.
Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est votre marge de manœuvre en tant que maire d'arrondissement?
Alors, hélas, en tant que maire d'arrondissement, peu de marge de manœuvre, parce que c'est la loi Paris-Marseille-Lyon qui le veut ainsi. Une loi qui détermine justement ce que peuvent faire les mairies d'arrondissement et ce que peuvent faire les mairies centrales. C'est valable à Paris, Lyon et Marseille. Ce sont les trois seules villes qui ont des arrondissements. Il faut dire qu'à Lyon, la loi PML est particulièrement mal appliquée.
PML ? Paris-Marseille-Lyon. C'est-à-dire que les maires d'arrondissement que nous sommes n'avons pas toutes les prérogatives auxquelles nous avons droit. Donc ça fait partie des dossiers que j'ai pris à bras-le-corps depuis 2 ans. Et j'insiste vraiment pour faire bouger les choses à Lyon et que les maires d'arrondissement puissent avoir une politique en proximité, c'est-à-dire bien gérer des services publics en proximité. Par exemple, que nous puissions gérer des lieux comme les écoles, comme les crèches, comme les gymnases, mais aussi la bibliothèque, mais aussi, pourquoi pas, les bains douches. Les bains douches ont été fermés sur le premier arrondissement. S'ils avaient été gérés par la mairie du premier, nous ne les aurions pas fermés. Donc on voit qu'à travers l'application de la loi, nous pourrions avoir une politique différente sur un arrondissement comme le nôtre, et cela j'y tiens.
Mmh. Les bains douches ont été fermés et des fontaines aussi ont été taries. Dans le même dans endroit, le, c'est sur
à côté,
votre arrondissement.
Oui, alors ça c'est une politique menée par notre ville qui ne veut pas s'attaquer aux questions de fond, alors qui ne veut pas accueillir, mais qui ne veut pas non plus regarder tout simplement la réalité de l'accueil et de familles qui viennent, de mouvements migratoires qui viennent sur Lyon, mais comme ils viennent dans d'autres villes de France et d'Europe. Et donc plutôt que de se mettre autour de la table avec l'État, avec la métropole, avec la ville, avec d'autres partenaires, des partenaires associatifs aussi, Lyon a la chance de bénéficier de nombreuses associations qui sont en capacité d'accompagner des ménages, des personnes, des familles qui viennent dans notre ville. Et ben, au lieu de faire cela, on préfère repousser les familles pour qu'elles aillent plus loin par des moyens que je qualifie d'indignes. C'est effectivement tarir les fontaines au sein du jardin des Chartreux alors que nous étions en pleine canicule l'été dernier, alors qu'une femme venait d'accoucher, elle s'est retrouvée à la rue avec son nourrisson sans eau.
Et qu'il y avait donc plusieurs personnes qui vivent dans leur voiture.
Exactement.
Depuis longtemps.
Et puis, pour terminer, c'est vrai qu'on a eu un faux chantier installé place Dupont dans le 7e arrondissement il y a 2 ans. Là aussi, pour pousser des familles plus loin, on a mis des barrières en faisant croire à un chantier. Enfin, quand je dis on, c'est la municipalité lyonnaise. Et puis, dernièrement, des familles qui ont été chassées d'un jardin dans le 3e sous prétexte de refaire le gazon. En plein hiver, on appréciera.
Justement, je voulais savoir, quand vous croisez ce on dans un couloir, comment ça se passe quand vous vous dites bonjour avec Gérard Collomb ?
C'est relativement froid.
Vous vous évitez, vous vous faites la bise, vous vous serrez la main ?
Ça fait longtemps qu'on ne se fait plus la bise, on se serre la main parce que ben voilà, nous sommes dans une forme de correction, mais je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment d'affinité aujourd'hui.
On parlait de gymnase tout à l'heure et d'un collège. Vous avez souhaité réquisitionner un collège qui était désaffecté, où il y avait du chauffage d'ailleurs. Il était vide, mais il y avait du chauffage. Et vous vouliez donc le réquisitionner pour que des personnes sans abri puissent y habiter. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Et vous avez terminé en garde à vue. Non, c'est pas lié avec cette histoire de collège Truffaut. Non, parce que moi ça m'intéresse. Il y a un animateur à Radio Canu qui a fait aussi de la garde à vue parce qu'il a manqué de respect aux forces de l'ordre. Et je voulais savoir comment ça se passait la garde à vue. D'abord, comment, qui a signalé au préfet qu'il fallait vous mettre en garde à vue?
Alors cela, je ne le sais pas. Je n'ai toujours pas accès à mon dossier alors que normalement il est classé, mais c'était quand même une anomalie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée sur place, place Morel, parce qu'il y avait une manifestation de parents, d'enseignants, d'associations, d'habitants et d'habitantes, qui demandaient effectivement, parce que des enfants et des familles dormaient dehors et ils étaient scolarisés la journée, que ces familles soient abritées la nuit au sein de ce collège qui était vacant depuis plusieurs mois à l'époque. Je me suis rendue sur place parce que je partageais la revendication de ces manifestants qui étaient tout à fait pacifistes et pacifiques. Et leur demande était simplement de pouvoir dire un texte depuis l'intérieur du collège pour demander avec moi, mais pour demander, c'était un mouvement citoyen à la base, la réquisition de ce collège par l'État et qu'il soit confié à une association, style l'Armée du Salut par exemple, hein, pour citer cette association-là, il y en a d'autres, et qu'on puisse accueillir des familles. Sachant que le préfet peut réquisitionner, c'est un pouvoir qu'il a. Ça s'est transformé en bataille rangée. On a eu beaucoup de forces de police qui sont arrivées sur place. Des gaz lacrymogènes qui ont été lancés sur moi-même, sur un autre élu, Armand Creuse, un élu régional qui était avec moi, sur des familles également. Donc il y a eu un mouvement de panique sur la place.
des personnes sont entrées dans le collège. Elles ont pu lire le texte qu'elles souhaitaient lire. Elles ont pu attirer les médias. C'était aussi l'objectif, hein, de montrer qu'il y avait des bâtiments vides et des enfants qui dormaient dehors. Montrer cette absurdité-là. Et puis, le lendemain, le directeur de la direction de la sécurité publique du Rhône m'a appelé pour me convier à une rencontre pour qu'on fasse un point sur ce qui s'était passé. Donc je suis allée dans les locaux de Marius Berlier le lendemain matin à 9h.
Au commissariat.
Voilà, normalement pour discuter avec lui, hein, en tant que maire, des événements, comme on aime bien dire, entre guillemets. Donc c'était absolument pas menaçant. Et quand je suis arrivée, je n'ai pas vu la personne qui m'avait invitée, le directeur que je devais rencontrer. Je me suis retrouvée dans un couloir, face à des policiers qui m'ont mis dans une pièce et qui m'ont dit que j'étais mise en garde à vue. Donc je suis restée 10 heures en garde à vue. Dans un premier temps, j'ai fait ce qu'on appelle... je me rappelle plus. En tout cas, c'est une procédure qui a un nom particulier que j'ai oublié. Ça doit être un lapsus. Voilà, ça doit pas être anodin.
Est-ce qu'on vous met les menottes ?
Non.
Est-ce qu'on vous apporte un sandwich ?
Pas du tout. Par contre, j'ai été amenée en sous-sol. Et en sous-sol, on fait ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire qu'on a vidé mon sac objet par objet en notant tout ce qu'il y avait dedans. Ensuite, c'est une fouille plus ou moins sommaire. Et puis ensuite, c'est les empreintes qui sont prises, c'est les photographies. Donc je devais mettre mes pieds dans
les
des
empreintes
endroits
digitales,
précis,
ouais.
Les empreintes digitales. Ça a duré 2 heures dans les sous-sols. On m'a fait beaucoup attendre dans les couloirs. J'avais l'impression que c'était une mauvaise série B. Je suis remontée, j'ai eu le droit de voir mon avocat 20 minutes. Qui était arrivé, et ensuite c'était une audition par des forces, par trois policiers. Après l'audition, on a demandé au parquet, enfin ils ont demandé au parquet ce qu'ils souhaitaient faire. Il a voulu continuer la garde à vue. Et donc il y a eu une confrontation avec des policiers qui ont dit que je les avais mis en danger. Donc quand on me voit avec ma taille, avec ma carrure, on peut se poser un certain nombre de questions.
Non, mais c'est vrai que vous êtes dangereuse, écoutez Nathalie Perrin.
Mais j'ai fait 2 heures de cellule, ceci dit, en attendant. Avant cette confrontation, 2 heures de cellule, pieds nus, voilà. Donc je crois que j'ai quand même eu un petit traitement particulier, je vais dire ça comme ça. Après, il y a eu la confrontation. Et je crois que si j'ai été libérée de ma garde à vue au bout de 10 heures, c'est parce qu'il y a eu un mouvement associatif et citoyen fort qui est venu manifester devant le commissariat et qui a réclamé par des chants ma libération. Et je crois que si les habitants n'avaient pas été là, peut-être que je serais restée un petit peu plus longtemps en garde à vue.
Donc tu vois, Dipou, il n'y a pas que toi qui as des problèmes. Est-ce qu'un maire à Bangui peut se retrouver en prison ?
Non, les maires à Bangui sont considérés comme des autorités du pays et donc c'est difficile qu'on les mette en prison. C'est impossible.
Comment ça marche les maires ? Est-ce qu'il y a des arrondissements dans la capitale de la République centrafricaine ?
Oui, en République centrafricaine, dans la capitale Bangui, il y a 8 arrondissements et puis chaque arrondissement a un maire qui sont élus par la population qui sont là. Mais on ne les voit pas trop.
Non.
Oui, on ne les voit pas trop. C'est à l'approche des votes pendant les campagnes qu'on les voit, qu'on les sente, qu'ils essaient de mettre un peu d'ordre dans les quartiers, de dégager un peu les poubelles, juste pour se faire voir, pour être élu. C'est tout. Mais bon, après ça, on ne les voit pas.
Oui. Moi, ça me gêne pas du tout qu'un élu soit traité comme un autre citoyen. Je crois même que c'est essentiel. Je pense pas que les élus, que ce soit les maires, les députés, un président de la République, doivent être au-dessus des lois. Bien au contraire. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est quand on nous reproche des choses qui ne sont pas vraies. Donc là, c'était autre chose. Après, si j'avais fait vraiment quelque chose d'illégal, devoir répondre devant la justice, j'aurais trouvé ça normal.
Non, mais absolument. Mais nous, on est absolument pour que les personnes politiques soient emprisonnées. Dipou, oui. Comment ça marche à Dhaka, dans la capitale du Bangladesh, où il y a une densité très intense? Est-ce qu'il y a plusieurs arrondissements?
Oui, il y a plusieurs arrondissements, mais il n'y a pas de maire pour chaque arrondissement. Il y a responsable, mais il y a 2 maires pour toutes les villes de Dhaka.
Et il y a des responsables de quartier?
Oui.
Oui, à Bangui aussi, il y a le maire qui est considéré comme le chef de la délégation de Bangui. Et lui, il est à la mairie centrale, au centre-ville. Mais au-dessus de lui, il y a encore d'autres maires pour chaque arrondissement. Et dans chaque quartier, il y a un chef de quartier encore.
Et le chef de quartier, lui, on peut aller le voir, il est accessible?
Oui, oui, lui, il est accessible, le chef de quartier, il est là, il traite des problèmes qui sont dans les quartiers, des problèmes dans un couple, dans un foyer. On vient le voir, il essaie de trancher ses problèmes. Et puis, souvent, il se promène dans les quartiers pour voir là où c'est sale et puis convoquer les intéressés pour qu'ils mettent de la propreté, de l'ordre, tout et tout.
Mm-hmm. Mm. Nathalie Perrin-Gilbert, est-ce que vous avez déjà traité des problèmes de couple?
J'essaie dans la mesure du possible d'éviter. Je considère que c'est pas mon rôle.
Alors, j'en viens à une thématique qui nous est chère ici, c'est celle des réfugiés ou demandeurs d'asile. Est-ce que ça concerne une maire d'arrondissement ou est-ce que c'est de la politique internationale réservée aux élites de Paris?
Non, ça concerne pleinement les maires d'arrondissement, les élus locaux. Ça fait pleinement partie de notre fonction que d'accueillir et de veiller à ce que ces personnes puissent bénéficier des mêmes services que les autres. Pour moi, ce sont des hommes et des femmes avec une égale dignité, donc ils doivent être accueillis, ils doivent bénéficier d'hébergement ou de logement. Par exemple, il se trouve que l'inscription dans les écoles se fait dans les mairies d'arrondissement, donc nous veillons aussi à la scolarité d'enfants qui arrivent sur l'arrondissement, par exemple.
Mmh. Mais quand les enfants n'ont pas de papier, quand leurs parents n'ont pas de papier, qu'est-ce que vous faites?
Alors, la première mesure à faire, à mettre en route, c'est la domiciliation, c'est-à-dire on recourt souvent soit à des services type CCAS, un service sociaux de la ville, soit à des associations qui existent sur notre territoire pour qu'il y ait au moins une adresse, ce qu'on appelle donc une domiciliation, et à partir de là, on peut mettre en œuvre des mesures. Il faut savoir que le droit au mariage, le droit à la scolarisation sont des droits essentiel, universel, et que même si on n'a pas un statut à jour ou un titre de séjour, les enfants ont le droit d'aller à l'école, les couples ont le droit de se marier. Moi, je me suis beaucoup battue pour que ce droit au mariage soit respecté, notamment avec les amoureux au banc public, parce que ça aussi, c'est un droit fondamental de la personne. Mmh. Et voilà.
Sauf que nous, ici, on ne veut pas se marier. Tu veux te marier, Dipou?
Non.
Même avec moi? Tu veux pas te marier?
Non. Vous avez le droit, bien sûr. Non, mais voilà les prérogatives des maires d'arrondissement.
Et par ailleurs, vous avez vous-même accueilli une famille chez vous. Comme on parle beaucoup d'accueil avec des associations Welcome, Singa, Calm. Des gens sont venus témoigner ce que ça représente dans le quotidien d'accueillir des gens qu'on ne connaît pas chez soi. Vous, ça s'est passé comment?
Moi, ça s'est bien passé. C'était en 2005 et 2006. C'était une famille, enfin une femme et sa fille, originaire de République démocratique du Congo. Je dois dire que ça s'est très bien passé. Ça s'est passé simplement. Des liens se sont tissés à tel point qu'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec cette maman et cet enfant qui est grande maintenant, qui est en quatrième dans un de nos collèges. Je les suis, mes filles les considèrent cet enfant comme leur propre sœur. Enfin voilà, on a des liens très forts et ça ne peut pas se prolonger trop longtemps dans le temps parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se pose des questions de promiscuité, d'intimité des uns et des autres, mais ça s'organise en tout cas.
La pause musicale aussi s'organise et après nous reprendrons cette conversation et nous la clôturerons d'ailleurs. Mon cher Schumann, qu'est-ce que tu as choisi pour Nathalie Perrin-Gilbert? Attention, elle est rock'n'roll.
Alors, la chanson provient d'un film romantique. Le nom du film est Bluffmaster. Il était sorti en 2005. Écoutez bien.
आरज़ू बेकाबू है समझो सारे बात बाकी वक्त का क्या भरोसा बन के पानी बह जाए कल अगर ना मिल जाए रह न जाए बात बाकी
right here, right now, है खुशी
का सवा right here, right now,
हम है इस
आरज़ू बेकाबू है समझो सारे बात बाकी वक्त का क्या भरोसा बन के पानी बह जाए कल अगर ना मिल पाए रह न
jahe baat baki BLU to the double F master Let's take it slow girl, I'm a long master Yeah, I'm a bad boy
But I'm a good girl
Out in the club on your bed, on your rock girl I made back, so leave them quiet, drop the playback Get to my crib and then you last if you can stay back You fine, so fine, I'm gonna keep you smiling Nice eyes, fine fur, pin style Aao mil jaye hum yu, ki phir na ho joda Never gonna let you go, girl Never gonna let you go, no, 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 no Na ho koi faasle, na ho duriyan Never gonna let you go, girl Never gonna let you go, no, 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 no Wind your body one time
Right here, right now, home, hey, spadja
Wind your body two times
Gwila jao, musiko jao, lehna jai, baata baki
I'm the master of the clusters I take the smooth, but I love the rough stuff The lady just can't be getting off the rough stuff Now I can be gentle, I can give you the tough love Ek mein aur ek tu hai, aur hawa mein jaadu hai आरज़ू बेकाबू है समझो सारे बात बाकी वक्त का क्या भरोसा बन के पानी बह जाए कल अगर ना मिल पाए रह न जाए बात बाकी
Yes, we see, we saw, sorry. No, thank you very much, Shuman. It was very, very sweet. Vous avez aimé Nathalie Perrin-Gilbert?
Oui, beaucoup.
Puisque nous parlons d'expression musicale, ça ne vous a pas échappé quand vous êtes arrivé à la radio en plein cœur du premier arrondissement, Radio Canu, la vitrine est un petit peu explosée. Ça arrive souvent. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire, ouais, ça peut m'inspirer de la colère. Après, je le vis comme évidemment de l'intolérance, évidemment comme des actes ciblés. Et je dirais que c'est des actes, quand on commence à détériorer le matériel, quand on commence à s'en prendre aux personnes physiquement et aux locaux physiquement, c'est le début du fascisme. Donc ça m'inspire aussi de l'inquiétude et de la volonté que ça ne reste pas impuni.
Vous faites de la politique depuis longtemps, pourquoi ?
D'abord pour défendre, je crois que ce qui, enfin ouais, pour lutter contre les injustices, c'est un peu bateau, mais c'est quand même cela. Et puis défendre les libertés. Moi, quelqu'un qui m'a inspirée en politique, c'est Robert Badinter. Le fait de supprimer la peine de mort, le fait de dépénaliser l'homosexualité, ça m'a fait comprendre. Combien le politique pouvait être fort, ce que ça pouvait représenter. Donc pour moi, ça a été des repères hein, dans mon adolescence, on va dire, dans ma jeunesse, et ici je reste dans un cadre français. Voilà, donc c'est vraiment sur la défense des droits fondamentaux que je suis entrée en politique.
Très bien. Eh bien, quelques-uns de Blabla Mix sont homosexuels et ne sont plus des criminels. C'est magnifique. Attention, on va parler mode. Fa 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 fa
Merci Véronique. Alors du coup, aujourd'hui, on va profiter du fait que vous soyez là, Nathalie Perrin-Gilbert, pour parler du lien entre vêtements et pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a des vêtements du pouvoir? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? En tout cas, apparemment, l'histoire nous prouve que oui. Dans pas mal de sociétés, voire toutes, on a le vêtement qui a été un signe d'appartenance sociale, de pouvoir, de royauté, quand ça a été le moment. On a eu, dans certaines cultures, ça a été les plumes, ou la parure, ou l'or, les perles, etc., qui ont montré qui détenait le pouvoir dans les sociétés. Et en tout cas, il y a différentes manières de le marquer, mais toutes les sociétés se sont servies de vêtements pour le marquer. Aujourd'hui, quand on regarde la politique, les femmes et les hommes politiques, on a quand même l'impression qu'il y a toujours des codes un petit peu en termes de vêtements. Est-ce que vous, Nathalie Perrin-Gilbert, vous pensez qu'il y a toujours des codes qui existent en politique ?
Oui, il y a toujours des codes qui existent. La question est de savoir, est-ce que l'on s'y plie, est-ce que l'on s'y plie pas, ou comment on joue avec pour les faire bouger. Voilà, pour ma part, j'adopte un certain nombre de codes, effectivement, mais j'essaye aussi surtout de rester moi-même, et donc de trouver le juste milieu entre ce que j'ai envie, moi, et puis une petite forme d'obligation. Voilà.
Alors, quel code est-ce que vous adoptez, par exemple ?
Alors, quel code est-ce que j'adopte ? C'est tout simple, mais par exemple, effectivement, je vais rarement en jean dans ma mairie, ou même en réunion, ou même en conseil municipal, alors que dans ma vie privée, c'est un pantalon que je peux porter voilà, couramment. Ça, c'est un petit exemple, mais je me refuse, en revanche, d'adopter le style jupe tailleur ou pantalon tailleur. Je veux pas cette uniformisation de la politique. J'ai trop constaté que des femmes, à partir du moment où elles arrivaient à des postes à pouvoir, s'habillaient un peu de manière masculine, ou en tout cas gommaient leur féminité. Et je trouve ça particulièrement injuste. Si on la gomme pas, on va être en même temps accusé de vouloir séduire ou de jouer de sa féminité. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, je pense, pour une femme que pour un homme, de s'habiller, de rester femme, sans que ce soit tout de suite retourné contre nous. Mais par exemple, voilà, je me refuse de ne pas porter tout simplement de jupe, de robe. C'est les mêmes questions qui peuvent se poser au collège, au lycée, pour plein de jeunes filles, finalement, qu'on peut se poser aussi dans la vie de l'entreprise. Voilà, donc on y est soumis de la même manière. Après, je crois qu'il faut rester libre, libre de s'habiller, tel qu'on le souhaite, tel qu'on est, vraiment, en adaptant un minimum. Voilà.
Et en même temps, de porter une mini-jupe ne vous empêche pas de vous asseoir par terre quand vous recevez le maire d'Alep Est dans une mairie blindée. Il n'y avait plus de place et vous étiez assise par terre en mini-jupe. Ça m'a vraiment marqué. Bravo.
Je m'en rappelle même plus. Oui. De Brita aussi, mais...
Et oui, non, j'allais dire, justement, vous parliez d'injustice au niveau de ce qui se passe entre femmes et hommes politiques ou de pouvoir. Est-ce que vous avez constaté, vous, qu'on décortiquait plus, par exemple, vos vêtements que vos collègues masculins ?
Oui. Oui, j'ai eu des remarques, hein, y compris de collègues, ou des remarques parfois même dans la presse sur la manière dont j'étais habillée, sur la manière, sur les tailles de vêtements que je pouvais porter. Enfin voilà, donc je trouve ça particulièrement déplacé, en effet. Je préfère ne pas répondre. Je préfère être indifférente. C'est inintéressant, totalement.
Après, on a certaines femmes qui ont carrément fait une force. On a par exemple Nicola Sturgeon, donc la première ministre d'Écosse, qui ne porte que des tailleurs faits par des tailleurs locaux, justement pour leur faire un peu de pub, et en se disant, on va parler de mes vêtements, donc de toute façon, autant que je m'en serve. Est-ce que, à votre avis, c'est un bon moyen de détourner ça ?
C'est une manière de jouer avec, effectivement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est réussir à rester soi, et en même temps à adapter, et c'est une très bonne manière d'adapter et de retourner la chose. Moi, par exemple, je porte aussi assez régulièrement des habits de petits créateurs ou créatrices de l'arrondissement. On a la chance d'en avoir beaucoup sur le quartier. C'est une manière aussi de revendiquer l'appartenance à un arrondissement et à une manière de faire, à une manière de fabriquer. Donc oui, ça fait partie des clins d'œil que je fais régulièrement.
Et on peut se demander aussi comment ça se passe dans d'autres pays au niveau des vêtements du pouvoir. Par exemple, en Centrafrique, Peggy, est-ce que les hommes politiques ou les femmes politiques ou les maires, par exemple, ont un signe distinctif au niveau des vêtements ?
Oui, à Bangui, les responsables, on peut dire, ou les autorités, ils aiment beaucoup se mettre en tenue de ville, comme ils aiment dire. Ça veut dire de bien s'habiller. Et souvent, ils se disent qu'ils sont responsables et donc ils doivent bien s'habiller. Ça fait responsable, puis c'est des tenues décentes.
Et qu'est-ce qu'ils portent, par exemple ?
Les hommes, ils sont toujours en costume et en cravate. Par contre, les mères, ils sont souvent en tenue directeur. Dans mon pays, c'est comme ça, on appelle du genre... C'est des tenues faites avec des tissus, comme les costumes. Sauf que devant, c'est pas ouvert pour mettre la cravate. Et il y a des boutons qui viennent jusqu'au cou, on peut dire. Et puis, ils portent ça souvent... pour les mères, ils mettent aussi leur drapeau pendant des cérémonies officielles, pour célébrer un mariage, etc. Mais chez les femmes, elles sont beaucoup plus en tenue traditionnelle. Donc, les pagnes qu'elles coudent avec différents modèles, et souvent aussi des boubous, qui sont des tissus qui brillent et brodés.
Donc, c'est des tissus qui sont chers. Et donc, elles aiment se mettre en valeur.
Oui, d'accord.
C'est ça, mais ça brille souvent.
Oui. Elles ne s'habillent pas comme ça dans, dans leur vie privée ou
dans leur vie privée à la maison, non. Ils sont simples avec des pagnes. Voilà, ils sont simples. Mais pour aller au travail, ils mettent des choses de valeur.
Oui. Bon, et pour finir cette chronique, Nathalie Perrin-Gilbert, on aimerait bien savoir si vous accepteriez de porter une banderole Bablamix pour imiter un peu Nicolas Sturgeon.
On n'en a pas, je vous rassure.
Mais, non.
Mais ça aurait été avec plaisir.
Ah bah alors, on va en faire une.
Exactement.
Il faut que ça brille. Ouais. Et des costards à 10 000 dollars, ça c'est trop bien. Dans un instant, on part en Albanie, mais tout d'abord, on y va en chant avec une soprano qui s'appelle Alketa Cela.
Son fils Kosovo. Moi, ton fils Kosovo, je connais les désirés enfuis. Je connais tes songes, tes ventes séculaires endormies. Je connais tes joies, tes deuils, tes souffrances. Je connais tes frontières limpides, tes blanches naissances. Je connais ce sang qui brûle ta poitrine. Cette vague qui frappait ta nuit à son mignac est-elle un volcan éclate? Mieux que n'importe qui, je te connais, mon pays, mon ton fils chéri.
Blabla minute.
Blabla minute. Blabla.
Dan, très beau poème qui s'appelle comment?
Mon ton fils Kosovo.
Et Rita va nous le traduire en albanais. Bonjour Rita.
Bonjour. Malheureusement, je ne parle pas l'albanais, mais peut-être mon invité Rina Cellagras va nous traduire. Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez nous dire de quoi parle le poème?
Alors, c'est une déclaration d'amour d'un poète, du poète Ali Podrimia, qui déclare donc sa flamme à son pays. Comme vous l'avez vu, il connaît bien, donc il décrit bien en fait cet amour.
Oui. En fait, vous êtes déjà venu à Radio Canu et vous nous avez parlé de vos livres. Aujourd'hui, on veut savoir plus sur l'Albanie. Vous êtes né où?
Moi, je suis née à Elbasan. C'est une ville d'environ 100 000 habitants au centre de l'Albanie. Mm-hmm. C'est une ville qui est à 45 km de Tirana et une très belle ville. C'est là où se rencontrent donc le nord et le sud, et nous parlons la langue qui a été prise comme la base pour la langue littéraire, parce que le dialecte du nord et le dialecte du sud se rencontrent.
Donc, qu'est-ce que c'est qui distingue cette ville d'autres villes en Albanie?
Alors, c'est des gens qui sont... je pense que ce qui distingue, c'est la nature des gens. C'est des gens qui sont très paisibles. D'ailleurs, la légende dit que dans notre ville, il y avait un seul gendarme qui gardait... Oui. Et en fait, il y
c'est
avait...
C'est le paradis, là-bas. Il faut y aller.
Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le croisement des religions. Dans la ville, il y a des musulmans, des catholiques et des orthodoxes. Et donc la proximité, elle est vraiment donc on peut voir le minaret, le clocher de l'église qui sont à côté de l'un l'autre, et c'est justement ce vivre ensemble. Dans ma ville, quand il y a Noël, les musulmans ils vont à l'église, et quand il y a le Ramadan ou quand il y a les fêtes musulmanes, les voisins catholiques ou orthodoxes ils vont rendre visite, partager les gâteaux. Donc finalement, moi, ce que j'ai vécu en Albanie, je l'ai vu nulle part, et c'est vraiment un laboratoire qui est très intéressant à voir et en profiter.
Mm-hmm. Vous venez de dire qu'il y a des différentes religions, des différentes cultures dans votre ville et à l'Albanie en général, mais pourquoi il y a une mauvaise réputation sur l'Albanie dans les médias?
Mais la réputation, elle est, c'est compliqué. Nous, on a un proverbe: vaut mieux perdre un œil que d'avoir la mauvaise réputation. Et pour moi, la réputation, c'est comme une goutte noire sur un mur blanc. On verra que ça, on verra pas le mur blanc. Donc effectivement, il suffit qu'il y a un seul compatriote qui fasse du mal, mais du coup ça tâche toute la communauté. Alors qu'il y a par exemple beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes qui sont fondues dans la communauté française, dans cette société multiculturelle que c'est la France d'aujourd'hui, et qui vivent leur vie tranquillement et qui ne se font même pas remarquer qu'ils sont albanais.
Et en fait, l'Albanie, c'est le seul pays qui a accueilli les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est pas le seul pays, mais c'est un pays qui a déclaré, en tout cas, qui a eu l'ordre d'accorder des visas et des laissez-passer à toutes les personnes, à tous les Juifs qui voulaient fuir l'Europe fasciste, naziste. Et d'ailleurs, tous ceux qui se présentaient au port de Durrës, ils rentraient même sans papier. C'est-à-dire que c'était quand même un geste fort du gouvernement dans les années 1935 pour montrer la solidarité du peuple albanais avec le peuple juif.
Donc, qui est le rôle des intellectuels albanais à l'étranger dans la défense de l'image de l'Albanie?
Alors, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Nous avons beaucoup de personnes qui œuvrent dans différents domaines. Par exemple, il y a nous avons entendu Alketa Çela qui a chanté tout à l'heure. Elle vient de triompher à l'opéra de Varsovie où elle a joué Traviata. Nous avons beaucoup d'écrivains, par exemple Ismaël Kadare qui est très connu à Paris. Il y a énormément d'écrivains, il y a des peintres, il y a dans tous les domaines. Il y a même, nous avons eu des ressortissants albanais qui ont eu le prix Nobel. Par exemple, si je vous dis Ferid Murati, je suis sûre que ça ne vous dit rien du tout. Mais si je vous dis que c'est l'inventeur de Viagra, là, tout le monde connaît.
Ah, Dan, tu connais bien,
oui.
Toi. Viagra. Vaincra. Le Viagra. Vaincra. Alors, d'ailleurs, ce serait bien qu'il invente un Viagra pour les femmes.
Je crois que ça existe aussi, je crois. Mais juste la pour parité. La petite anecdote, lui, c'est un cardiologue très connu. Et en fait, il avait fait des recherches pour un médicament pour le cœur. Et en fait, le Viagra, c'était d'abord pour le cœur. En fait, c'était un effet indésirable secondaire, plutôt.
D'accord.
Désirable, plutôt. plutôt.
En fait, c'est un accident.
C'est un accident.
Ah oui,
c'est comme la plupart des médicaments et des vaccins qui ont été inventés par hasard.
Dan vient de lire un poème de l'amour. Vous pouvez nous parler de la culture de l'amour en Albanie? Comment se passe là?
Alors, en Albanie, c'est compliqué, je dirais.
Allez-y.
C'est compliqué parce que encore aujourd'hui, dans la société albanaise, le couple doit se connaître, disons, c'est le premier amour qui doit se solder avec un mariage. Donc, si cette premier amour ne se solde pas avec un mariage, c'est compliqué. Et d'autant plus qu'il faut que la famille se mêle. Et il faut que les familles soient d'accord. Donc, on peut pas vivre ensemble en couple s'il n'y a pas mariage. Donc, voilà, c'est quand même compliqué. Mais je pense que justement, c'est là où c'est compliqué. C'est là où il y a aussi les flammes les plus denses, on dirait, les sentiments les plus, quand il y a frustration, finalement, où là, ça crée après des émotions très fortes.
Vous pouvez nous parler un petit peu des traditions de mariage en Albanie?
Alors, les traditions de mariage, c'est en fait ce qui compte en Albanie, c'est le mariage traditionnel. C'est le cas à la mairie, on va un peu à la va-vite, mais ce qui compte, c'est vraiment la fête qui est en accord avec les familles. Chez la fille, la cérémonie commence le jeudi où il y a le dot qui est exposé, il y a tout le monde qui vient voir tout ce qu'elle a préparé pour équiper sa chambre. La future maison, les habits, aussi les cadeaux que la famille de son mari lui a fait. Ensuite, donc le samedi soir, il y a la grande fête où il invite la famille et les amis. Vers 11h du soir, minuit, il y a la délégation de la famille du mari qui vient participer à la fête. Il reste une petite heure. Et ensuite, ils s'en vont. Et le lendemain, dimanche, dans la matinée, il y a une délégation, les célèbres Krusht, nous les appelons comme ça, qui viennent chercher la jeune fille, qui doit pleurer. Des fois, même quand elle n'a pas envie de pleurer, il faut qu'elle fasse semblant.
Ah oui?
Oui, pour quitter. Oui, voilà, elle quitte quand même sa vie, dans sa famille. Et donc ensuite, elle va chez son mari, et le soir, dimanche soir, il y a la fête chez son mari qui a lieu avec toute la famille. Et justement, vers 11h du soir, il y a une délégation de sa famille qui va pour rendre visite, pour participer à la fête.
Et est-ce qu'il y a d'autres fêtes traditionnelles en Albanie?
Alors, il y a beaucoup de fêtes en Albanie parce que justement, comme je vous ai dit, il y a déjà les trois religions. Trois religions et même une quatrième, c'est les Bektashi, c'est une secte. C'est pas un secte, chez nous il est reconnu comme religion. C'est une branche de l'islam, je dirais, qui sont c'est l'islam des génissaires des sultans, et le centre mondial se trouve en Albanie. C'est une branche qui est vachement plus tolérante que l'islam normal. Et donc il y a tous ces religions, ils ont leurs propres fêtes. Donc chez nous il y a énormément de fêtes, mais en dehors de ça, nous avons une fête qui est très particulière, c'est la fête du printemps. C'est une fête païenne qui est fêtée partout en Albanie le 14 mars, où il y a tout un cérémonial avec des œufs qu'il faut bouillir le matin, des œufs blancs, et ensuite il faut laver le visage pour être blanc toute l'année. Il y a des gâteaux spéciaux qui sont préparés, donc il y a énormément de choses.
Et à cette fête du printemps, parfois, une lecture de poèmes.
Ok. Omalet e Shqipëris. Omalet e Shqipëris e jo olisat e gjat. Fushat e gjera me lule që u kam dërmend dit e nat. Jo bregore bukuroshe e jo lument e kulluar. Quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyllet e gjelbruara. Do të këndoj baktin që mbani ju e ushqeni, o vendthi e bekuar, ju mendje me dëfreni.
Vous écoutez Blablabla Mix, la suite de l'Albanie dans un
sadness in his eyes. Told me that he wanted help before his country dies.
save some lives.
Rock'n'roll, Schumann, pourquoi as-tu choisi cette chanson?
Cette chanson est celle d'un musicien anglais, il s'appelle George Harrison. Il est inspiré d'un musicien bengali, il s'appelle Ravi Shankar. C'était pour la sensibilisation. Il était libéré en juillet 71 pendant la guerre au Bangladesh.
Qui a été libéré? Ravi Shankar? Non.
C'est Sean Santé.
D'accord, ça, c'est une chanson sur cette libération. Et comme le dit le dicton albanais, on ne peut pas tenir deux couches. Non, pardon. On ne peut pas tenir deux courges sous la même aisselle. Rita, Rina, peut-être traduire le poème qu'on a entendu juste avant la musique de Dan.
Oui, effectivement, c'est un des poèmes que chaque Albanais d'Ignacenon doit le connaître par cœur. J'ai une petite traduction. Au monde d'Albanie, et vous chêne élancé, champ parsemé de fleurs dans mes rêves bercés, vous côte orient, et vous fleuve limpide, crête, vallon, ravin, futé splendide, c'est pour vous que je chante mes blanches bergeries, dont seul le souvenir cause ma nostalgie.
Donc, on revient. Si tout va bien en Albanie, pourquoi les gens partent? Il y a beaucoup d'Albanais à l'étranger. C'est quoi la raison pour laquelle ils quittent le pays?
Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être vous le savez, peut-être pas. L'Albanie, elle a eu des grands changements depuis 91. C'est que jusqu'en 91, c'était une dictature communiste, une des pires. C'est l'équivalent de ce que vivent en Corée du Nord les gens là-bas. Et donc, après le changement de système, il y a eu énormément de troubles. L'économie du pays qui était complètement détruite. Donc tout a commencé à se mettre en place, notamment le pluralisme politique, la société civile. Donc maintenant ça fait presque 25 ans plus même, mais les choses avancent petit à petit. Le principal problème, c'est l'économie. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, en Albanie, il y a beaucoup de personnes qui sont formées. En gros, chez nous, le moindre serveur connaît 3 ou 4 langues étrangères et a un diplôme, mais un diplôme universitaire. Il peut être juriste, il peut être. Et en fait, chez nous, avoir des diplômes et des certificats, c'est comme un sport national, et sauf qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et autant dans les chantiers, il y aurait besoin pour travailler, mais chez nous, tout le monde doit faire des études.
Et c'est pour ça que parfois, des réfugiés, des demandeurs d'asile albanais, bengalis, centrafricains, arrivent en France et appellent l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Pascal,
tu es où? C'est toi le directeur de l'OFPRA?
Pascal.
Oh pardon, oh il est en vacances.
Pardon,
de te déranger.
Pardon.
Oh la piscine, t'as vu la piscine. Pardon de te déranger parce qu'il y a Schumann, il attend toujours sa réponse. Il voudrait savoir depuis 6 mois, ça fait même 8 mois qu'il a demandé. Peut-il être réfugié, oui ou non?
Oui ou non, Pascal.
Schumann, peut-il être réfugié,
oui ou non?
Oui ou non, Pascal?
Oh non, mais il déjeune. Oh pardon, Pascal, tu déjeunes.
Pardon.
Ça va être froid. Ça va être froid.
Désolé, Pascal.
Non, mais parce que Pascal, comme la loi le dit, tu dois lui répondre après 6 mois. Et là, ça fait 8 mois. Champagne.
Oui, verre de champagne.
Un peu de fromage aussi.
Pascal, excuse-moi, Pascal. Attends, entre la poire et le fromage, il y a Clémentine. Alors là, Clémentine, elle est du Rwanda. Elle est née dans la mauvaise ethnie au mauvais moment. Oh, pas de chance. Son mari a été assassiné, sa fille a été assassinée. Elle s'est enfuie et elle a passé plusieurs semaines dans la forêt. Ça fait 17 mois qu'elle est en France, Pascal.
Pascal.
Et tu ne l'as toujours pas convoquée à l'OFPRA, Pascal.
Oh, Pascal.
Mais qu'est-ce que tu fous, Pascal?
Pascal. Bah, elle attend.
Non, parce que tu vois, Clémentine, elle voudrait savoir si elle peut être accueillie pour vivre en paix en France. Elle voudrait savoir si elle peut être réfugiée.
Oui ou non, Pascal.
Pascal.
C'est la sieste, Pascal. T'as trop mangé.
Pascal.
Bon, Pascal, on va pas te déranger plus longtemps, hein, Pascal.
Désolé pour le dérangement, Pascal.
Comment?
Désolé pour le dérangement, Pascal.
Mais oui, Pascal. C'est Pâques, Pascal. En tout cas, Pascal, on te laisse tranquille. Tu viens nous voir dans Blabla Mix quand tu veux. On n'a pas de champagne, mais on a des dossiers.
Blabla poche.
C'est Blabla Mix. Il est -5. On n'a pas de Viagra, mais on a du gigot. C'est Pascal Pâques. Bonjour Anne, bonjour Dipou.
Bonjour Véronique.
Vélo.
Alors, la semaine dernière, vous n'étiez pas là, bande de chenapans. Et où étiez-vous, Dipou?
On était vacances à Paris.
En vacances avec Pascal?
Avec Anne.
Avec Anne.
Non, en fait, on était journée de JRS à Paris.
JRS Welcome.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait à JRS Welcome?
Il était beaucoup de choses. Il était atelier radio, qui moi et Anne, on était présentés à Blabla Mix.
Ah ouais.
On est allé faire de la pub à Paris. Et oui. Il y avait des gens de toute la France.
Oui, on a chance. On voit les gens partout les fosses.
C'est très 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 gentil. Et vous avez fait un atelier Blabla Mix.
Oui.
Ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi?
C'est comment on commence Blabla Mix, comment on fait Blabla Mix, comment on invite la Blabla Coach à inviter Blabla Minute.
comment on organise BlaBlaMix et tout.
Tu as tout dit, tout dévoilé, nos secrets de fabrication.
Oui, oui.
D'accord. Il n'a pas tout dit. On a fait écouter des extraits aussi de BlaBlaMix. Et puis, on a montré des photos.
Oui.
Parce qu'il y a plein de vie dans l'équipe de BlaBlaMix. Et ça fait envie, je pense, à beaucoup de gens qui aimeraient bien peut-être créer des petits frères ou des petites sœurs de BlaBlaMix ailleurs. Puis, on a rencontré aussi, Dipou, des Parisiens de JRS oui. Welcome Jeunes qui sont en train de créer, enfin, qui ont créé un atelier radio et qui s'apprêtent à diffuser sur une web radio. Mais alors, ils nous ont dit que pour l'instant, ils étaient bien moins avancés que BlaBlaMix. Ça nous a fait plaisir.
Oui, oui. Tout le monde est surpris de notre BlaBlaMix.
Oui. Et donc, tu as été professeur.
Teacher.
Peut-être.
Professeur de radio.
Oui, tout pour dire.
Et est-ce qu'il y avait beaucoup de monde alors à ces rencontres de JRS Welcome
oui,
de France?
Il y était beaucoup de personnes, oui. Personne de Bordeaux, et Paris, Clermont-Ferrand, Grenoble, partout, je crois. Oui, il est responsable de chaque ville, ils étaient là, comme ça.
Et toi, ça t'a intéressé de voir que
oui,
tous ces gens?
J'ai une chance parce que j'étais toute seule qui demandait asile pour toutes les conférences comme ça. Oui.
Tu étais le seul demandeur d'asile au milieu de tous ces Français.
Oui.
Super. Ben, ils ont de la chance.
Oui.
Et alors, est-ce qu'on peut faire le tour de ces JRS Welcome en région? Est-ce qu'ils ont des initiatives sympathiques?
Ouais, plein d'initiatives. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de JRS, c'est le service jésuite des réfugiés hein, qui accueille.
Qui l'a inventé?
Alors, c'est les jésuites au départ au niveau international, et puis en France, c'est au début des années 2000 un jésuite qui s'appelle Jean-Marie Carrière et qui a inventé Welcome, qui est cette branche qui organise l'accueil dans des familles et puis aussi des communautés françaises de demandeurs d'asile. Et alors oui, il y a plein de choses, ça fourmille d'idées. Par exemple, Dipou dit qu'il y avait des gens de Bordeaux. Ben à Bordeaux, ils ont mis en place des jardins partagés où les demandeurs d'asile de différents pays peuvent planter je dis Bordeaux, c'est peut-être Toulouse, j'ai un doute tout à coup, c'est Toulouse plutôt, et où ils peuvent planter des produits de leur pays, des fruits, des légumes de
des
leur
produits
pays.
De beauté.
Alors pas encore, mais c'est retardé. Et puis
des plantes de leur pays,
oui, des fruits et des légumes notamment, ou des tubercules, que sais-je encore. Et puis par exemple, il y avait des gens de Quimper, eux ils sont en train de naître leur collectif là-bas. Alors c'est assez drôle parce que au début ils se disaient nous on voudrait accueillir des demandeurs d'asile, on voit à la télé, mais on n'en connaît pas, on n'a pas l'impression qu'il y ait des problèmes d'accueil chez nous. Puis ils sont allés creuser et ils ont trouvé que si, il y avait un besoin, et donc ils commencent à accueillir des demandeurs d'asile. Et puis quelque chose qui a intéressé Dipou, oui. C'est à Clermont-Ferrand. Tu te souviens?
Il était deux phrases qui c'était très très impressionnant. Il y a quelqu'un qui partageait, quelqu'un qui accueillait les réfugiés dans la maison. Et quand l'accueil il vient de maison après quelques journées, et réfugié il demande comment ta journée. Ça fait dire que c'est le réfugié accueilli chez le réfugié à quelqu'un, les Français. Et il y a quelqu'un qui dit on peut visiter chaque pays sans avion. Ça fait dire pour raconter avec quelqu'un, ça fait dire connaître la culture, connaître la personne, connaître tout le pays.
Et sans polluer, puisque c'est en restant à la maison. Donc ça, c'est bien. C'est écologique, en fait, accueillir.
Exactement.
Et on était cinq, moi et Anne, Nadat, Odile, Jo, et une famille qui d'OGRS à Lyon, Valérie et David.
Toutes ces personnes, on les a reçues en plus. Oui. Jean, c'est celui qui a fait de la scie musicale.
Et puis si, je voudrais dire une chose, parce que qui t'a beaucoup intéressé aussi, Dipou, c'est JRS Welcome Jeunes, ça c'est à Paris, oui. Les jeunes demandeurs d'asile et français qui organisent des tas de choses, ils font du yoga, un café philo, du théâtre, plein de choses encore, oui. Et je crois que ça t'a donné des idées.
Oui, je te demande à quelqu'un qui est responsable de JRS Jeunes à Paris, oui, elle m'a donné toute l'information, comment on peut faire JRS à Lyon, JRS Jeunes à Lyon. Oui, je te demande à Nadat aussi.
D'accord.
Elle m'a dit qu'il tout peut. Peut-être que je vais faire. Oui, je vais faire, oui.
Parfait.
Après, on a visité après Paris, oui. On peut Paris aussi. Torfil, Champs-Élysées.
Montmartre.
Oh, Montmartre.
Mais ouais. On est allé à Montmartre et on a raté le train.
Oh, après. Oui. Mais on prend un verre de bière aussi.
Ah, mais oui, mais voilà, si tu bois de la bière à Montmartre.
Après, on a eu le temps de boire une bière à la gare en attendant le suivant.
Mais dis-moi, Dipou, pourquoi tu voulais voir la Tour Eiffel?
Parce que quand j'étais petit, j'ai lu dans le livre. Qui sont fausses, il y a Tour Eiffel, il y a Musée du Louvre. C'est, au Bangladesh, tout le monde connaît fausse avec Tour Eiffel et Musée du Louvre. J'étais très, très intéressé. Mm-hmm.
Très bien. Merci beaucoup à tous. Rina Tchela-Grasset, je rappelle que vous publiez des ouvrages. Il y a un livre de cuisine qui est super. Et puis, il y a ces proverbes du pays des aigles, trésor albanais. C'est aux éditions Les Passionnés de bouquins. Merci donc à toute l'équipe. Et vous êtes formidables, comme tous les dimanches. Le reggae, eh bien, ça va chauffer. D'abord, notre générique. Et ensuite, c'est un homme aujourd'hui. Comment s'appelle cet homme ? Bonjour monsieur.
Bonjour, je suis Milouz, on m'appelle.
Ah mais c'est Milouz, c'est un homme collector de Radio Canu et je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de t'accueillir.